Chapitre 7 La délivrance de la loi. Dans le chapitre 6, nous avons été instruits sur la manière dont a lieu la délivrance de la puissance du péché. Au chapitre 7 est placée devant nous la manière dont a lieu la délivrance du joug de la loi. Il y a évidemment une grande différence entre le péché et la loi. Le péché est entré dans le monde par l'homme. La loi a été donnée par Dieu. L'un est absolument mauvais, l'autre est sainte, juste et bonne. Il est facile de voir que nous avons besoin d'être délivrés de ce qui est mauvais. Il n'est pas si simple d'apprendre que, comme croyants, nous avons également besoin d'être délivrés du principe de la loi. Toutefois, l'examen de la nature de la loi et de ses effets devrait nous convaincre de la nécessité de la délivrance de sa domination. Premièrement, rappelons-nous que la loi a été donnée à l'homme naturel pour lui montrer la norme de conduite que Dieu demande à l'homme si l'on veut que sa bénédiction dépende de ses propres actions. Deuxièmement, en faisant connaître ce que Dieu exige de l'homme, la loi a aussi révélé la sainteté et la justice de Dieu. Troisièmement, la loi a exposé la faiblesse et l'incapacité totale de l'homme pour garder la loi et répondre ainsi aux justes exigences de Dieu. Quatrièmement, en exigeant de la part de l'homme et en manifestant sa faiblesse, la loi ne lui a donné aucun secours ni aucun soutien pour satisfaire ses exigences. Enfin, étant sainte et inflexible, la loi condamnait totalement l'homme qui ne la gardait pas en tout point. Résumons brièvement le principe de la loi tel qu'appliqué à l'homme. Elle exige de moi ce que je n'ai pas la force de faire. Elle ne me donne aucune force pour répondre à ses exigences. Et quand je manque à satisfaire ses exigences, elle me condamne entièrement. Ainsi, bien que la loi soit en elle-même sainte et ordonnée pour procurer la vie et la bénédiction si on la garde, elle devient un moyen de montrer à la fois la sainteté de Dieu, ma faiblesse et, en conséquence, ma condamnation. Il devient alors clair que le croyant a besoin d'être délivré de la loi et, de plus, il a besoin d'un autre soutien pour porter du fruit pour Dieu. Le verset 4 dit très clairement que c'est le désir de Dieu que les siens portent du fruit pour lui-même et soient donc une source de plaisir pour lui. Pour qu'il en soit ainsi, il nous faut connaître la délivrance du péché, de la loi et de la chair. Cela nous amène au grand sujet du chapitre 7 où nous apprenons comment Dieu délivre de l'esclavage de la loi et qu'un nouveau lien a été formé entre le croyant et Christ ressuscité pour que nous puissions porter du fruit pour Dieu. Le chapitre se termine par les expériences que nous traversons pour nous faire apprendre le besoin qui est le nôtre d'accepter la manière dont Dieu délivre. Le chapitre peut se diviser comme suit. Au verset 1 à 3, nous avons le principe établi et illustré que la loi domine sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Les versets 4 et 6 montre l'application aux croyants du principe et de son illustration. Au verset 7 à 13, nous avons l'utilisation et l'effet de la loi lorsqu'elle est appliquée à l'homme dans la chair. Au verset 14 à 25, nous avons les expériences d'un homme qui apprend, par le moyen de la loi, la vraie nature de la chair et son besoin d'un libérateur. Versets 1 à 3. L'affirmation et l'illustration du principe que la domination de la loi prend fin avec la mort. Citation de l'Écriture. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui entendent ce que c'est que la loi, que la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Car la femme qui est soumise à un mari est liée à son mari par la loi tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est déliée de la loi du mari. Ainsi donc, le mari étant vivant, elle sera appelée adultère si elle est à un autre homme. Mais si le mari meurt, elle est libre de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en étant à un autre homme. Fin de citation. Le grand principe qui sous-entend la doctrine des chapitres 6 et 7 est que nous ne pouvons pas être en vie dans ce à quoi nous sommes morts. Au chapitre 6, ce principe est appliqué au péché. Si nous sommes morts au péché, nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Au chapitre 7, ce principe est appliqué à la loi. Si nous sommes morts à la loi, nous ne sommes plus sous la loi. L'apôtre s'adresse à ceux qui savent ce qu'est la loi. Cela semble inclure aussi bien les juifs que les non-juifs. Les juifs étaient sous la loi. Les non-juifs, y compris ceux de la chrétienté, n'étaient pas sous la loi au sens strict, mais ils entendaient très bien ce qui en était. L'apôtre leur rappelle le principe bien connu que la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ce principe est illustré par le cas de la femme mariée. Le lien inviolable du mariage est utilisé pour illustrer l'inviolabilité de la loi. Tant que le mari vit, la femme est liée par la loi à son mari. Si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de son mari. Il n'a plus de domination sur elle. La mort rompt le lien. Elle est libre de se marier à un autre. Ainsi, le grand principe est établi que, si Dieu donne une loi à l'homme, un lien divinement formé est établi entre la loi et ceux qui sont sous elle, et seule la mort peut annuler ce lien. Versets 4 à 6. L'application aux croyants du principe que la domination de la loi prend fin avec la mort. Verset 4. Citation de l'Écriture. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ, pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Fin de citation. Ayant établi et illustré le principe que la mort met fin à l'autorité de la loi, l'apôtre applique maintenant ce principe aux croyants. Dans l'illustration, le mari meurt. Dans l'application, la femme meurt. Mais cela ne fait aucune différence quant au principe affirmé, à savoir que la mort rompt le lien. Pour utiliser le langage de l'illustration, nous mourons à un mari afin d'être mariés à un autre. Le grand sujet de ces deux chapitres 6 et 7 est que nous sommes morts, mais c'est dans la mort de Christ que nous sommes morts. Cette mort est présentée par l'expression « le corps du Christ ». Dans la mort de Christ, nous avons été affranchis de l'autorité de la loi pour être mis sous la domination de Christ, ressuscité d'entre les morts. Au lieu que nos vies soient contrôlées par une loi écrite qui nous est contraire, nous sommes maintenant sous le contrôle d'une personne vivante qui nous aime. Il y a deux choses dans l'illustration. La dissociation d'avec le premier mari par la mort et l'association avec le second mari en vie. Dans l'application, le croyant est vu comme dissocié de la loi par la mort de Christ et associé avec Christ vivant et ressuscité. Mais la dissociation d'avec la loi et l'association avec Christ ressuscité ne sont pas simplement des privilèges qui nous sont offerts, mais des faits vrais quant aux croyants par l'opération de Dieu. Dieu lui-même a rompu pour le croyant le lien avec la loi par la mort de Christ. Vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ. Verset 4. Nous ne sommes pas mis à mort à la loi par quelque expérience personnelle, mais par le corps du Christ. Lorsque le corps mort de Christ pendait sur la croix, il est évident qu'il avait quitté la condition de vie à laquelle la loi s'appliquait. Ce qui est vrai de Christ aux yeux de Dieu est vrai du croyant à la place duquel Christ est mort. Il est donc de la première importance de voir que, par l'opération de Dieu lui-même, nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Chapitre 6, verset 14. Je peux pratiquement me mettre sous la loi de deux manières. Premièrement, en pensant que Dieu est contre moi à cause de mes péchés et du péché. Ou deuxièmement, en pensant que Dieu est pour moi à cause de ma bonté que je m'imagine. Dans les deux cas, je fais dépendre l'attitude de Dieu envers moi de ce que je suis pour Dieu, ce qui est le principe de la loi. La grâce me montre que Dieu n'est pas contre moi à cause de mon mal, et qu'il n'est pas pour moi à cause de ma bonté, mais que Dieu est pour moi à cause de ce qu'il est en lui-même, et qu'il peut avec justice se montrer pour moi à cause de ce que Christ a fait. Voilà donc la première grande vérité qu'il nous faut apprendre. Par la mort de Christ, Dieu a libéré ou affranchi les croyants du principe de la loi et nous a placés sous la grâce. Cependant, pour la délivrance pratique du légalisme, il ne suffit pas de voir que l'ancien lien a été dissous dans la mort de Christ, mais nous devons aussi saisir qu'un nouveau lien a été formé avec Christ ressuscité. C'est dans la mesure où nous vivons dans la puissance de ce nouveau lien que nos âmes seront mises en liberté et que nous porterons du fruit pour Dieu. L'image du mariage est très belle pour présenter le nouveau lien que Dieu a formé pour le croyant avec Christ ressuscité. Il a été souligné que, dans la relation conjugale, la femme peut compter sur trois choses: la compagnie, l'amour et le soutien de son mari. Être associé avec Christ ressuscité, c'est avoir sa compagnie, jouir de son amour et obtenir son soutien. Ces trois choses apparaissent très heureusement quand le Seigneur était ici-bas sur la terre avec ses disciples. Ils avaient la compagnie, l'amour et le soutien de Jésus. Ils étaient des hommes ayant les mêmes passions que nous, extrêmement faibles, souvent défaillants, ignorants et égoïstes. Ils avaient à faire face à des tempêtes, à rencontrer des privations, et l'ennemi était contre eux. Mais Christ était avec eux. Christ les a aimés jusqu'à la fin, et Christ les a soutenus à chaque pas du chemin. Maintenant qu'il est ressuscité, c'est encore notre privilège d'avoir sa compagnie, car il dit « Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13, verset 5. Nous pouvons aussi jouir de son amour d'une manière plus profonde que ce que les disciples ont connu, car c'est un amour qui a été démontré et trouvé fort comme la mort. En outre, nous avons son soutien d'une manière que les disciples ne pouvaient guère réaliser, car c'est le soutien de celui qui a triomphé de tous les ennemis et qui a brisé la puissance de la mort et du tombeau. Pourrions-nous nous sentir seuls en compagnie de celui qui est si plein d'amour? Pourrions-nous être mécontents si nos cœurs sont remplis d'un amour que la mort ne peut pas briser, que le temps ne peut changer et que l'éternité ne peut épuiser? Pourrions-nous parler de notre faiblesse si nous réalisons que nous avons la toute-puissance de Christ ressuscité pour nous soutenir? C'est donc dans la réalisation de notre association avec Christ ressuscité que nous trouverons la délivrance pratique. Quand l'âme crie « Je rends grâce à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ », chapitre 7, verset 25, c'est qu'elle a été amenée à saisir ces deux choses, la dissociation d'avec la loi et l'association avec Christ ressuscité. Elle trouve ainsi la délivrance de la loi et porte du fruit pour Dieu. Versets 5 et 6. Citation de l'Écriture. Car, quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. Mais maintenant nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d'esprit et non pas en vieillesse de l'être. Fin de citation. En outre, il est important de voir que nous ne pouvons pas être simultanément sous l'autorité de la loi et sous celle de Christ. Le contraste entre être sous la loi et être sous Christ est présenté de façon vivante dans les versets 5 et 6. Au verset 5, l'apôtre décrit l'effet d'être sous la loi quand nous étions dans la chair. Il peut dire « quand nous étions dans la chair », parce qu'il parle du point de vue chrétien. Comme chrétiens, nous ne sommes plus dans la chair, c'est-à-dire l'ancien état d'Adam avec toutes ses responsabilités. En regardant en arrière à cet ancien état, il décrit l'effet d'être sous la loi. Celle-ci excitait les convoitises de péché en les interdisant. Ensuite, les passions étant éveillées, les membres de nos corps les mettaient en pratique, avec comme résultat que la mort ou la séparation s'interposait entre nos âmes et Dieu. Mais maintenant, en contraste avec le passé, lorsque nous étions dans la chair, tout est changé. Et ce changement est dû à ce que nous sommes morts avec Christ. Ce n'est pas que la loi soit morte, mais nous, nous sommes morts. Il faut lire « étant morts dans ce en quoi nous étions tenus ». Le résultat est que nous ne servons plus Dieu avec le sentiment d'être sous une obligation légale, à savoir de devoir faire ceci ou cela pour nous rendre Dieu favorable. Ce serait servir en vieillesse de l'être, verset 6, laquelle dit « fais ceci et tu vivras ». Mais étant libérés du principe de la loi, nous servons comme étant en esprit, trouvant plaisir à faire la volonté de Dieu. Voilà la nouveauté d'esprit. Versets 7 à 13. L'effet de l'action de la loi sur l'homme dans la chair. Versets 7 à 11. Citation de l'Écriture. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Qu'ainsi n'advienne! Mais je n'eusse pas connu le péché si ce n'eût été par la loi. Car je n'eusse pas eu conscience de la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Mais le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, a produit en moi toutes les convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Or moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a repris vie, et moi, je mourus. Et le commandement qui était pour la vie a été trouvé lui-même pour moi, pour la mort. Car le péché ayant trouvé une occasion par le commandement, me séduisit, et par lui, me tua. Fin de citation. Ayant établi et appliqué le principe que la mort délivre de la servitude de la loi, l'apôtre montre maintenant l'usage de la loi en décrivant son effet sur l'homme dans la chair. L'apôtre a insisté sur la vérité que le croyant est délivré de la loi. Cette nécessité d'être délivré de la loi implique-t-elle que la loi est mauvaise? Il demande même « La loi est-elle péché ?» La réponse immédiate est « Qu'ainsi n'advienne !» L'apôtre se met alors à montrer son usage et à déclarer son excellence. Le principal usage de la loi est de prouver que nous avons en nous un principe mauvais appelé péché. L'apôtre dit « Je n'aurais pas connu le péché si ce n'avait été par la loi ». Il ne dit pas « les péchés », mais « le péché ». Il aurait été conscient des péchés même s'il n'avait jamais connu la loi. Nous n'avons pas besoin d'une loi pour nous dire qu'il est mauvais de voler ou de tuer. La conscience naturelle donne à un homme la conviction de sa mauvaise conduite. Mais la conscience ne révélera jamais à un homme son état intérieur de péché. La loi dit « tu ne convoiteras point ». C'est le seul commandement qui s'applique à l'homme intérieur, tandis que les 9 autres commandements s'appliquent à la conduite extérieure. La conduite extérieure peut être irréprochable, et par conséquent laisser la conscience tranquille, sans avoir aucun sentiment de jugement ou de mort. Mais du fait que le péché est en nous, l'effet immédiat de la loi lorsqu'elle dit « tu ne convoiteras point », c'est d'attiser la convoitise et tout de suite la conscience sait que la loi est violée et elle réalise que la mort en est le résultat. « Le péché a repris vie et moi je mourus », verset 9. La loi qui a été ordonnée pour qu'on ait la vie si on lui obéit, voilà qu'elle apporte la mort à la conscience quand elle est violée. Versets 12 et 13. Citation de l'Écriture. La loi, donc, est sainte, et le commandement est saint et juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Qu'ainsi n'advienne. Mais le péché, afin qu'il parût péché, m'a causé la mort par ce qui est bon, afin que le péché devint, par le commandement, excessivement pécheur. Fin de citation. Si l'effet de la loi est de provoquer la convoitise et de faire peser la mort sur la conscience, la loi est-elle mauvaise? Loin d'être mauvaise, la loi est sainte, et le commandement particulier « Tu ne convoiteras point » est saint, juste et bon. Ceci étant, ce qui est bon cause-t-il la mort? Pas du tout. C'est le péché qui est la cause de la mort, non pas la loi. Tout ce que la loi fait est de rendre manifeste la présence et le caractère du péché. Le péché est en effet si mauvais qu'il prend occasion de ce qui est bon pour amener la mort sur la conscience. Ainsi, l'effet de la loi sur l'homme, du fait de ses convoitises, est de lui faire découvrir non seulement l'existence du péché, mais le caractère excessivement pécheur du péché. Versets 14 à 25. Les expériences par lesquelles est découvert le vrai caractère de la chair et le besoin qui s'ensuit d'un libérateur. Les derniers versets de ce chapitre 7 présentent l'expérience d'un homme sous la loi qui est pourtant né de nouveau et a par conséquent des désirs renouvelés dans son esprit. Les expériences sont présentées telles qu'elles apparaissent à celui qui est affranchi ou libéré de la domination de la loi. Ainsi l'apôtre commence en disant « Nous savons que la loi est spirituelle » verset 14. Ce « nous » représente ceux qui sont dans la pleine position chrétienne. C'est ce que savent ceux qui sont libres. Ensuite, se mettant à présenter les expériences de quelqu'un sous la loi, l'apôtre passe du « nous » au « je » parce que les expériences énoncées ne reflètent pas une véritable expérience chrétienne. Néanmoins, c'est l'expérience que traversent la plupart des chrétiens, quoique dans des mesures différentes. Il est profondément nécessaire d'apprendre le vrai caractère de notre vieille nature, la chair, et d'en arriver à dire comme Job, non seulement « je suis mauvais », mais « j'ai horreur de moi ». Nous pouvons atteindre cette connaissance de soi de trois façons. Une première manière d'apprendre ce que nous sommes est de le faire en présence du Seigneur, comme Pierre quand il se jeta aux genoux de Jésus en disant « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Luc 5, verset 8. Une autre manière d'apprendre le mal de nos cœurs est de se faire piéger par le diable dans quelque péché public, comme Pierre quand il a renié le Seigneur. Enfin, nous pouvons apprendre le caractère de la chair en cherchant à faire ce qui est juste par nos propres efforts légalistes. C'est cette troisième façon d'apprendre par nous-mêmes qui est placée devant nous dans ces expériences de Romains 7. Le cas supposé est celui d'un homme avec des désirs renouvelés qui cherche à faire le bien en se mettant sous la loi. Dans toutes ces expériences, il n'y a aucune mention ni de Christ ni du Saint-Esprit. L'homme ne pense qu'aux exigences de la loi, à lui-même et à ses propres efforts. Nous pouvons être tout à fait au clair sur l'impossibilité d'obtenir le salut en gardant les 10 commandements, et pourtant, en même temps, on peut chercher à surmonter la chair et à bien agir sur le principe de la loi. Autrement dit, je peux chercher à contenir la chair en m'efforçant de garder certaines règles et maximes au lieu de regarder à Christ pour me soutenir. Le principe de la loi est que j'obtiens la bénédiction désirée en assumant mes responsabilités. Je peux prétendre ne pas être sous la loi et pourtant me dire « Je ne dois pas permettre cette convoitise mauvaise, je dois obtenir la victoire sur le vieil homme et le péché qui habite en moi. » En disant cela, je me mets en principe moi-même sous une loi, car ce genre de pensée signifie simplement que la victoire sur le péché, la délivrance de la puissance du péché, dépendent de l'exercice de mes responsabilités, autrement dit de mes propres efforts. Si la victoire sur le péché dépend de quelque chose que je fais, alors j'ai de quoi me glorifier. Nous sommes toutefois si lents à accepter la vérité de la méchanceté de la chair et de notre incapacité à surmonter son mal, que ces vérités doivent être apprises par l'expérience, et des expériences souvent amères. Nous pouvons passer de longues années à faire des efforts pour vaincre le péché et nous libérer de sa puissance. Mais tant que ces efforts se poursuivent, notre histoire ne sera qu'une succession de défaites constantes et de déceptions. De telles expériences, si utiles et même nécessaires qu'elles soient, n'apportent jamais la délivrance du péché. L'expérience ne fait que prouver que nous ne pouvons pas nous délivrer de la puissance du péché. C'est ce qui est nécessaire d'apprendre avant de pouvoir être vraiment libre. L'expérience ne pouvant pas apporter la délivrance, il faut dans une certaine mesure qu'elle précède la délivrance. À travers ces expériences, si douloureuses soient-elles, nous apprenons des leçons nécessaires comme l'apôtre le montre. Verset 14. Citation de l'Écriture. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Fin de citation. Premièrement, dans le cas supposé, l'homme apprend qu'il est dans la servitude sous la puissance du péché. Il réalise que la loi par laquelle il tente de régler sa conduite est spirituelle, mais que, quant à lui, il est charnel, vendu au péché. Verset 15. Citation de l'Écriture. Car ce que je fais, je ne le reconnais pas, car ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je hais, je le pratique. Fin de citation. Il l'apprend expérimentalement, car, dit-il, ce que je fais, je ne le reconnais pas, car ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je hais, je le pratique. Il est évident que si je ne peux pas faire ce que je voudrais, et que je suis amené à faire ce que je hais, je ne suis pas un homme libre, je suis un captif. Verset 16. Citation de l'Écriture. Or, si c'est ce que je ne veux pas que je pratique, j'approuve la loi, reconnaissant qu'elle est bonne. Fin de citation. En outre, s'il faisait ce qu'il ne voulait pas, cela démontrait clairement qu'il approuvait la loi, qu'elle était bonne et qu'il ne voulait pas faire le mal, mais qu'il était poussé par une force adverse. Verset 17. Citation de l'Écriture. Or maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Fin de citation. Il découvre que cette puissance est le principe mauvais du péché. Donc, conclut-il, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Ainsi, la tentative de contrôler et surmonter le mal de son propre cœur par des efforts légaux conduit à la découverte que l'âme est captive sous la puissance du péché. Début du verset 18. Citation de l'Écriture. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Fin de citation. Deuxièmement, dans cette lutte pour faire le bien et surmonter le péché par des efforts légaux, une autre vérité importante est apprise. Je découvre le mal incorrigible de la chair. Comme le dit l'apôtre, je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Il ne dit pas « je ne fais pas le bien », mais « en moi, il n'habite point de bien ». Il est ici question de ce que je suis, non pas de ce que je fais. En fait, la chair peut faire beaucoup de choses moralement justes. Sans doute que dans le cas supposé, la vie était sans reproche. L'échec était la convoitise, et cela est à l'intérieur. Dans la chair est une expression utilisée dans l'Écriture pour décrire notre condition déchue où nous sommes gouvernés par la vieille nature rattachée à Adam. Adam innocent était dans la chair, mais sans péché. Le Seigneur Jésus aussi était dans la chair, mais sans péché. Par la chute, la chair ou la nature de l'homme a passé sous la domination du péché. Et ainsi la chair est devenue la chair de péché. Chapitre 8, verset 3. Dans cette lutte pour faire le bien, nous découvrons qu'en dépit de tous nos efforts, la chair ne change pas. la convoitise, jaillit de manière toujours répétée dans le cœur, montrant que la vieille nature est là, incorrigible. Nous découvrons que non seulement il y a beaucoup de mal dans la chair, mais que dans la chair il n'y a aucun bien. Nous sommes amenés au point où nous avons horreur de nous-mêmes. Job 42, verset 6. Fin du verset 18 et verset 19. Citation de l'Écriture. Car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le trouve pas. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Fin de citation. Troisièmement, une autre vérité solennelle est apprise dans cette lutte. C'est le fait que nous n'avons aucune force. C'est peut-être la vérité la plus difficile et la plus humiliante à apprendre. Quelqu'un a dit que c'est là une leçon bien plus humiliante à apprendre que celle d'avoir commis certains péchés dans ma vie passée. Cela soulève la question non pas de ce que j'étais avant de connaître Christ, mais de ce que je suis maintenant que je le connais. La leçon que nous n'avons en nous-mêmes aucune force contre la chair est apprise par le fait que nos efforts pour surmonter la chair sont vains. Réalisant que cette convoitise, cet orgueil, cette vanité sont un tort et doivent être surmontés, nous nous mettons à l'œuvre par la prière, par l'étude de la parole et d'autres exercices religieux pour surmonter ces choses mauvaises. Le résultat est que nous nous fatiguons sans succès jusqu'à ce qu'enfin nous soyons obligés de dire « Accomplir le bien, cela je ne le trouve pas. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. » Nous apprenons ainsi que si la victoire dépend de nos propres efforts, nous ne pouvons qu'être entièrement vaincus, car nous n'avons pas de force. Non seulement il n'y a pas de bien dans la chair, mais nous n'avons pas de force contre elle. Laissés à nous-mêmes et à nos efforts, nous sommes des hommes misérables et notre cas est désespéré. Versets 20 à 23. Citation de l'Écriture. Or, si ce que je ne veux pas, moi, je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut pratiquer le bien, que le mal est avec moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Fin de citation. Quatrièmement, dans cette lutte pour surmonter les convoitises de la chair, nous apprenons à distinguer entre nous et le principe du mal au-dedans de nous. Si ce que je ne veux pas, moi, je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Il y a en nous un nouvel homme qui est appelé l'homme intérieur, et ce nouvel homme se plaît à faire le bien. Mais il y a aussi un principe mauvais qui a pouvoir sur les membres du corps et qui combat contre les désirs de bien qui gouvernent l'homme intérieur. Il s'ensuit que toutes ces luttes pour surmonter la chair par nos propres efforts nous laissent captifs du principe de péché qui opère dans nos membres. Verset 24. Citation de l'Écriture. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Fin de citation. Ayant découvert que nous sommes enchaînés à un corps dominé par le péché qui mène à la mort, nous sommes amenés à détourner les regards de nous-mêmes et à crier pour faire appel à un libérateur. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Ce que l'âme cherche n'est pas simplement une délivrance, mais un libérateur. Nous pouvons en effet en arriver au point de réaliser le besoin de délivrance du péché, mais sans y parvenir, car nous recherchons une délivrance plutôt qu'un libérateur. La question n'est pas « comment être délivré ?» mais « qui me délivrera ?» Verset 25. Citation de l'Écriture. je rends grâces à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché. Fin de citation. La réponse vient immédiatement. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Le secret de la délivrance se trouve en vivant par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. La délivrance ne se trouve pas en s'appuyant sur nos prières, sur notre connaissance de l'Écriture ou sur notre dévouement, mais en regardant au Fils de Dieu. En présence de la chair, du monde et du diable, des ennemis qui sont beaucoup plus forts que nous, nous nous tournons vers celui qui est plus fort que tous nos ennemis. La chair est trop forte pour nous, mais le Fils peut nous affranchir. Jean 8, verset 36. Le monde est trop fort pour nous, mais le Fils a vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Satan est trop fort pour nous, mais le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. En regardant à lui, nous regardons à celui qui est avec nous, qui nous aime et qui peut nous soutenir. Nous arrivons, du point de vue gouvernemental, à la vérité expérimentale décrite doctrinalement au début du chapitre, la vérité que nous sommes mariés à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Verset 4. Ainsi, la délivrance est atteinte, mais par le moyen du libérateur. Néanmoins, cette délivrance n'est pas de la présence du péché, mais de la puissance du péché. Dans le ciel, nous serons délivrés entièrement de la présence du péché. Mais sur la terre, la chair est encore dans le croyant, quoiqu'il soit délivré de sa puissance. La dernière phrase du verset 25 le décrit clairement. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement je sers la loi de Dieu, mais de la chair la loi du péché. C'est une constatation du caractère et de la disposition à la fois de la nouvelle et de la vieille nature. La délivrance de la loi ne modifie pas la disposition de l'esprit renouvelé vis-à-vis de la loi, ni ne modifie la chair. Que nous soyons délivrés ou pas, la tendance de l'esprit renouvelé est d'obéir justement à la loi de Dieu, et celle de la chair est de résister à Dieu et obéir au péché.